François Weekend.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
Jusqu'à 19h, si vous nous rejoignez sur Europe 1, c'est toute l'actualité en débat. Avec ce soir nos grandes voix, Laetitia Krupa, journaliste politique, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste en communication politique et président de MCBG Conseil. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir à tous.
La France est toujours dans le viseur de l'islamisme radical et l'attaque d'hier a rouvert les plaies collectives 5 ans après les attentats de Paris. C'est notre échec à tous. Alors quelles sont nos armes aujourd'hui? Nous reviendrons aussi évidemment sur le plan de bataille d'Olivier Véran, qui revendique pour Marseille des mesures temporaires et non arbitraires, battues en brèche, on l'a entendu il y a quelques instants, par Samia Ghali, vécue en région comme une punition. Et on va s'exprimer et s'expliquer sur ce hiatus. Et puis les ministres, tous derrière Jean Castex cette semaine sur France 2, mais la stratégie du gouvernement est-elle lisible?
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
Avant d'amorcer le débat comme chaque semaine, je vais vous demander à tous les trois vos coups de griffe, vos coups de cœur, vos coups de blues, votre coup de gueule, Laetitia Krupa, pour commencer.
Alors, il suit l'interview que vous venez de faire. Hein, c'est le coup de gueule contre Samia Ghali qui déclare, on a eu là la preuve, hein, dans les oreilles, à qui le veut, à quelle caméra le veut, à quel micro le veut, qu'effectivement, les policiers municipaux n'iront pas verbaliser les restaurateurs. Elle était un peu plus nuancée là avec vous, j'ai remarqué.
Je ne leur dis pas ce qu'ils ont à faire, mais ils ont d'autres chats à fouetter.
Effectivement, je ne reviens pas sur le fond, l'exaspération, le désespoir d'une profession, effectivement déjà sinistrée par le confinement. Ce n'est pas la question en fait qui m'intéresse aujourd'hui, mais c'est que cette interdiction et ce conseil aux policiers est proféré par une élue. Or, on sait qu'en France, on vit une crise de la représentativité depuis quelques années. Une crise qui se creuse, qui s'empire au fur et à mesure.
Et de la confiance dans les politiques.
Des mois, des années. Mais la représentativité, Wendy, c'est important, c'est parce que qui dit ça aujourd'hui? Une représentante. On marche sur la tête. Enfin, si la défiance maintenant se fait à tous les étages et si effectivement les lignes de fracture se multiplient entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés, la démocratie, la République est menacée. C'est-à-dire que la responsabilité de Samia Ghali aujourd'hui, elle est fondamentale dans le fonctionnement de nos institutions et encore une fois, d'un point de vue global. Et je ne suis pas du tout grandiloquente en disant ça, mais vraiment la survie de la démocratie. Si on commence comme ça, je ne sais pas comment ça va finir.
Oui, vous l'avez entendu, Frédéric Dabi. Hein, elle préférerait quasiment, elle n'a pas été très explicite, mais un confinement régional, territorial à cette mesure qui frapperait uniquement les cafetiers et les restaurateurs.
Oui, c'est vrai, je partage ce que dit Laetitia Krupa. C'est vrai que la fronde des élus locaux est un élément de signal et d'avertissement pour le gouvernement parce qu'on n'est pas, si je peux dire, vierge dans cette période. On a très bien vu pendant la période du confinement et du déconfinement à quel point les Français ont manifesté une confiance très forte vis-à-vis des élus locaux, les maires, les présidents de région. Le fait régional s'est quand même beaucoup imposé pendant cette période récente et ils ont plutôt stigmatisé un État qui n'a pas été efficace, qui n'a pas été agile, qui a mal équipé les hôpitaux. Là, il y a la critique qui passe des masques aux tests. Et c'est vrai que la petite musique de Samia Ghali, je ne la juge pas. Elle a donné des arguments recevables, mais on peut lui opposer ce que les Français nous disent dans nos enquêtes, à savoir la crainte très forte de cette épidémie, la crainte de perdre ses proches. Mais c'est une mauvaise musique que le gouvernement doit, à mon avis, prendre en charge. Ce qu'a dit Olivier Véran, il a quand même été sur place. Il a dit que c'était des mesures temporaires, cette clause de revoyure. C'est un aspect qui pourrait peut-être nuancer et, je dirais, réparer les choses. On verra ce que dira demain votre antenne, Renaud Muselier.
Muselier, absolument. Philippe Moreau-Chevrolet, puisque cela rejoint votre coup de cœur, peut-être exprimer justement ce que vous ressentez sur Olivier Véran, dont Samia Ghali dit, bon voilà, il a fait son coup de com', il est allé sur le terrain, mais il est allé plus vite que la musique. Et maintenant.
Alors vous savez, Wendy, je ne suis pas particulièrement tendre avec la communication du gouvernement, mais j'ai un coup de cœur cette semaine, c'est Olivier Véran. Pourquoi? Parce que c'est celui dans le gouvernement, c'est le seul dans l'exécutif, qui est depuis le début, qui a vécu la première vague et qui depuis le début annonce les mauvaises nouvelles, gère les mauvaises nouvelles. Moi, ce que j'aime bien dans son profil, c'est qu'il le fait avec pédagogie, avec calme. Il ne se positionne pas au-dessus des gens, mais à la hauteur des gens. Et je trouve que cette semaine, ça a été le communicant le plus remarquable. Il a éclipsé même Jean Castex et son émission politique. Pourquoi? Parce qu'il a annoncé à lui tout seul ce qui allait se passer à Marseille. Il y a eu une levée de bouclier. Il est allé sur place et il a aidé à la résoudre. Aujourd'hui, même si Samia Ghali est toujours vent debout, Renaud Muselier, le président de région, s'est rallié à lui. Donc, il a fait œuvre politique véritablement. Et ce que j'aime bien dans son profil, c'est que c'est quelqu'un qui s'est engagé dans sa carrière contre le harcèlement. Il a fait passer la taxe soda, c'est un médecin à la base. Il s'est engagé pour les Chibani, les vieux immigrés qui sont dans des conditions sociales extrêmement difficiles. Il s'est engagé dans l'affaire des bébés sans bras pour qu'il y ait plus de transparence. Il s'est engagé pour les demandeurs d'asile au plan sanitaire. Donc il fait preuve d'un certain courage et d'une certaine constance. Moi, ma peur, c'est qu'il saute. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une grande vague de populisme médical.
Oui, et qu'on le laisse en première ligne.
Et qu'on le laisse en première ligne et qu'il s'encaisse, il s'encaisse, il s'encaisse. Il faut que des gens comme ça restent dans l'exécutif ou en tout cas dans le dispositif médical. Je le dis alors que je critique habituellement beaucoup la communication du gouvernement, surtout sur le Covid. Elle est désastreuse. Mais il y a une personne solide que vous pouvez regarder, c'est Véran, et il faut qu'il reste parce que sinon on sera dans une crise politique un peu plus grave qu'actuellement.
Mais il pourrait sauter et aussi victime de ce conflit aussi par Lyon-Marseille. On est aussi dans ce conflit des territoires, hein, Frédéric et Laetitia.
Oui, enfin, moi je ne crois pas du tout qu'il va sauter parce que, à mon avis, c'est la caution. C'est une caution, Olivier Véran. C'est celui qui incarne la sécurité avant tout, avant l'équilibre économique. Vous savez, il y a toujours cette balance. Lui, il incarne ça. Il incarne le message aux Français de « on va vous protéger » et non, on dit non à la mort. Parce que c'est ça, c'est le message qu'il donne aux Français. On fera tout pour éviter le nombre de morts, comme ça, augmentant au fil des semaines. C'est le message qu'incarne Olivier Véran, c'est la caution du gouvernement, donc je ne pense pas qu'il saute.
Bon, oui, puis on va relativiser, c'est une mesure pour l'instant d'une semaine, hein,
voilà,
Frédéric Dabi.
C'est vrai,
relativisant les choses.
Je partage complètement ce qui vient d'être dit. C'est vrai que lorsqu'il a remplacé, rappelez-vous, après le 14 février, au pied levé, Agnès Buzyn, il l'a complètement éclipsé, si je puis dire. Il avait connu dans le baromètre IFO Fiducial pour Paris Match, là, un des bonds de popularité les plus hauts de l'histoire. C'était, je crois, une trentaine de points. Là, quand même, où je relate le discours des Français, il y a quand même une certaine incompréhension et le sentiment que le gouvernement, dans son ensemble, a changé de pied. La semaine dernière, à cette même place, Wendy, on mettait en avant le « il faut vivre avec » d'Emmanuel Macron, son refus d'imposer des mesures contraignantes. Et là, on a eu un véritable tour de vis. Dans un contexte où l'inquiétude sanitaire, c'est-à-dire l'inquiétude vis-à-vis de la crise du Covid est forte, mais est moins forte qu'elle l'était encore il y a quelques mois, et est infiniment moins forte que l'inquiétude sur les conséquences économiques, ce que nous disent les différents restaurateurs, et on peut comprendre leur protestation. Oui. C'est cette incompréhension, c'est ce décalage qui fait que le gouvernement, pendant, je pense, une dizaine de jours, va connaître un moment de zone grise particulièrement difficile, puisque beaucoup de Français nous disent, sont un peu sur la posture de Giovanni Drogo, le héros du désert des Tartares, ils attendent un ennemi qu'ils ne voient pas, qu'ils ne les touchent pas, et il y a peut-être un sentiment d'épuisement qui est en train de venir.
Oui, intéressant. Demain, c'est l'appel à manifester aux Invalides à Paris contre la fermeture des bars, appel lancé par un représentant de l'IMIH à Paris, puisqu'à partir de lundi, les bars devront fermer à 22h. Et j'aimerais que vous compreniez un petit peu mieux le ciblage, pourquoi les restaurants et les cafés. Voici ce que disait sur l'antenne de France Inter Anne-Claude Crémieux, qui est professeure en maladie infectieuse à l'hôpital Saint-Louis. Écoutez.
Il y a un article qui vient de sortir qui montre que les personnes qui fréquentent les bars ou les restaurants ont 4 fois plus de chances d'être infectées. Pourquoi ? Parce qu'on le sait très bien, ce sont des situations dans lesquelles on ne garde pas le masque, bien sûr, et la distance sociale n'est pas toujours respectée.
Je voulais simplement remettre un petit peu les choses au clair. Philippe Moreau-Chevrolet.
Il y a quelque chose qui n'a pas été, pour le coup, bien fait par le gouvernement. C'est l'explication sur la manière dont se répand le virus. On en est encore aujourd'hui. On a vu le dernier tweet d'Emmanuel Macron à dire qu'il faut se laver les mains, respecter la distanciation et porter un masque. C'est vrai, mais c'est très, très primitif. Aujourd'hui, on sait que le virus, il se répand dans l'air. C'est pour ça qu'à Europe 1, on porte tous des masques autour de cette table.
C'est pour ça qu'il y a ce petit...
C'est pour ça que vous entendez un petit bruit, parce qu'on a un masque. Pourquoi on a un masque ? Parce que ça se répand dans une pièce fermée en particulier. Donc, il faut se protéger. Cette explication de texte n'a pas été faite par le gouvernement pendant les mois d'été où elle aurait dû être faite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, les Français se demandent « Attendez, moi, je me lave les mains. Je porte un masque quand on me dit de porter un masque. Je peux respecter une distanciation. Pourquoi je ne pourrais pas aller au restaurant ?» Parce qu'au restaurant, vous ne pouvez pas porter de masque. Donc, tant qu'on n'aura pas trouvé la solution qui, pour moi, passerait par l'aération, par exemple, je ne fais pas de publicité, mais un restaurant à Paris, le restaurant Allard, qui est piloté par le groupe Ducasse, ils ont installé des aérateurs individuels. Chaque table est aérée, c'est-à-dire que l'air de la table s'en va dans les tuyaux et est expulsé à l'extérieur.
Ah oui, vous imaginez l'investissement pour des petites
structures. C'est un investissement colossal, mais l'État aurait pu, au lieu de donner de l'argent,
faire de la pédagogie, faire de
l'équipement pour les restaurants. On avait 2 ou 3 mois pour se préparer.
Ça, je vais vous poser une question. Je pose une question, je me retrouve dans cette position de vous poser une question. Est-ce qu'il y a consensus scientifique sur ces points. Parce que c'est ce qui pose problème. Est-ce qu'il y a un consensus scientifique sur le fait de dire que dans cette pièce, effectivement, le virus circule et qu'on peut l'éviter avec les mesures que vous proposez ?
Votre question est absolument centrale, Laetitia, car je ne sais pas si j'ai l'impression qu'il n'y a pas de consensus. En tout cas, les Français sont, pardon d'être un peu trivial, paumés, car ils ne voient pas de consensus. Et l'épuisement dont je parlais sur cette maladie, sur cette crise qui s'étire en longueur, au mois de mai-juin, les Français étaient sur une logique août 44. Ça y est, on va revenir à la vie d'avant. Ils ont clairement intériorisé que ce ne serait plus le cas. Et cet épuisement dont je parlais vient aussi du sentiment de voir des scientifiques pas d'accord sur le sujet.
Ah, mais alors, la confusion, elle est grave, parce que comment une décision sanitaire pour la santé publique se transforme en punition ? Voilà le résultat.
Voilà. Il y a une réponse à votre question, Laetitia. La réponse, c'est il y a un consensus qui doit être politique. C'est la réponse de Mathias Vargon, qui est un urgentiste assez médiatique. Il répond, lui, c'est aux politiques de faire la décision. Mmh. On pourrait très bien décider que le risque zéro n'existant pas, qu'on peut vivre avec des restaurants, à partir du moment où leur aération, comme dans les classes d'école d'ailleurs, est gérée par un système particulier, ça s'appelle des filtres HPA, avec un certain type de normes. Sur cette base-là, OK, on aura quand même des contaminations, mais moins, on aura fait quelque chose, on ne peut pas vivre sans risque, voilà. On pourrait décider collectivement de faire ça. Ce qui est terrible, c'est qu'on n'a pas eu cette réflexion, ni même ce débat démocratique, puisque tout est décidé un petit peu en panique, en fait, au dernier moment, alors qu'on avait encore une fois 2 mois, que le Parlement aurait pu se pencher sur cette question. Et c'est aux politiques de trancher. C'est pour ça que c'est une décision terrible à prendre. Et c'est pour ça qu'Agnès Buzyn était en larmes, il faut le dire, cette semaine à l'Assemblée, quand même, en disant « Jugez-moi sur mes actes, je n'ai pas été parfaite, mais ne jugez pas que je suis une mauvaise personne. » On en est à des extrêmes, quand même, dans cette crise, parce qu'on ne sait pas gérer le long terme. On fait toujours du court terme.
Philippe Moreau-Chevrolet, Laetitia Krupa, avant de réfléchir à notre débat sur l'islamisme rampant, votre coup de cœur pour finir ce tour de table.
On est passé d'un sujet à un coup de cœur. Mon coup de cœur n'a rien à voir. C'est les 1 an de la disparition de Jacques Chirac. On se souvient, le 26 septembre 2019, de la vague d'émotion dans tout le pays, un peu équivalente à celle qu'avait connue la France en 1996 à la mort de François Mitterrand. L'IFOP avait réalisé un sondage avec le JDD à l'époque où Jacques Chirac, pourtant si controversé quand il était à l'Élysée, apparaissait comme le meilleur président à égalité avec Charles de Gaulle. Et les enquêtes, Wendy, à l'époque, avaient révélé une dissociation entre le politique, qui avait parfois été critiqué, très impopulaire, on se souvient de son deuxième mandat extrêmement compliqué, de l'année horribilis 2005, et l'homme Chirac, unanimement apprécié à gauche et à droite, l'homme chaleureux, rabelaisien, qui aimait les gens et qui leur ressemblait. 1 an après cette disparition, cette dissociation s'estompe. Puisque dans les enquêtes, on voit que l'homme reste toujours. Mais il y a des faits marquants de ces mandats présidentiels qui restent dans les mémoires. L'opposition à la guerre d'Irak, le discours du Veldiv, le fameux discours de Johannesburg sur notre maison qui brûle. La part d'ombre disparaît, Jacques Chirac entre dans l'histoire.
Et voilà, notre maison qui brûle, Johannesburg. Écoutez Jacques Chirac.
Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. La terre et l'humanité sont en péril et nous en sommes tous responsables.
Voilà, Jacques Chirac dans ses actes aussi de mémoire, de transmission, d'engagement au civisme. Frédéric Dabi, c'est ce que vous retenez avec cette double actualité, la mort de Denis Tillinac aujourd'hui, son ami, sa plume, et puis l'interview hier à BFM, la longue interview de Claude Chirac, sa fille qui n'exclut pas un jour de s'engager elle aussi dans un mandat politique, peut-être en Corrèze.
Oui, c'est vrai qu'elle a été extrêmement politique et ça serait aussi un retour une forme d'héritage de sa mère, puisque Bernadette Chirac a été élue en Corrèze en 1979 pour la première fois.
Oui, petite réaction là-dessus, les amis.
Oui, chez Claude Chirac, c'est elle qui a fait l'image du président Chirac.
Oui.
C'est elle qui a même repensé le candidat Chirac quand il était en mesure de gagner, quand il a gagné l'élection. Elle a été aux États-Unis apprendre auprès de Roger Ailes, le fondateur de Fox News et conseiller de Reagan, les méthodes pour faire de Chirac un vrai président populaire avec les vestes trop larges à la Jean Castex, avec le côté terrien, avec la voix aussi qui a commencé à parler plus lentement, avec plus d'ampleur. alors qu'avant, c'était un jeune homme pressé qui fumait cigarette sur cigarette avec des costumes à 6000 et des pompes en croco.
Ouais.
Il est devenu autre chose, et c'est grâce à Claude Chirac.
Et elle parle de cet homme, Claude Chirac, dans cette interview, en disant qu'il était en effet très complexe et que les Français ont commencé à l'aimer en 1995 lorsqu'il s'est formé et forgé son image présidentielle.
Mais ce qui est génial, c'est qu'elle restera communicante, spin doctor, secrète jusqu'au bout, parce que franchement, dans l'interview, elle dit qu'elle ne comprend pas, qu'elle n'a aucune réponse à cette transformation en homme populaire de son père, alors que c'est elle l'instigatrice de ce changement d'image. Voilà, communicante un jour, communicante toujours.
Laetitia Krupa, Philippe Moreau-Chevrelet, Frédéric Dabi, on revient dans un instant dans le débat des grandes voix.
Europe Soir Weekend.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
Les grandes voix d'Europe 1 jusqu'à 19h. Elles sont avec nous, Laetitia Krupa, Philippe Moreau-Chevrelet, Frédéric Dabi. On va revenir désormais sur cette menace islamiste rampante, cette hydre islamiste, ainsi l'avait qualifié Emmanuel Macron, et cette attaque hier, 5 ans après les attaques à Paris et en plein procès aux Assises. J'avais presque oublié, j'ai peur à nouveau. C'est un témoignage que vous avez peut-être lu aujourd'hui dans Libération. Les Français non plus, d'après vos enquêtes IFOP, n'ont rien oublié de cette épouvante.
Ils n'ont absolument rien oublié. On suit depuis le 11 septembre 2001 un baromètre de la menace terroriste et depuis 2015, la menace reste très forte. Elle a bien sûr un petit peu diminué, heureusement, après les deux années terribles 2015-2016, mais elle n'a pas reflué, ni pendant le confinement, ni du fait d'une certaine raréfaction des attentats depuis le dernier qui avait frappé, c'est-à-dire la préfecture de police en octobre 2019. Dans notre enquête de rentrée sur les préoccupations des Français, tout le monde a mis en avant les 26 points de plus sur la lutte contre la délinquance, mais il y a eu 18 points de plus sur la lutte contre le terrorisme. Les Français vivent avec ça, il y a une véritable résilience. Dans une enquête récente, on voyait que seulement 15% des Français déclaraient au cours des 5 dernières années avoir modifié des habitudes de leur vie quotidienne. 15%, c'est beaucoup dans une logique d'extrapolation, mais la majorité est écrasante. Mais voilà, on a des Français qui vivent avec, c'est ça, ce qu'on appelle maintenant, ce mot nouveau que les Français se sont complètement approprié, la résilience face au terrorisme.
Il y avait des bruissements dans la littérature djihadiste, dit notamment le journaliste Mohamed Sifaoui, qui observe bien, hélas, ces comportements, Laetitia Krupa. Donc, on peut connaître la menace, et pour autant, on n'arrivera pas demain à sécuriser tous les lieux de notre pays. Comment on vit avec cette menace et comment aujourd'hui les politiques peuvent nous rassurer?
Il y avait beaucoup plus que des bruissements, Wendy, puisque dans les pays musulmans, il y a eu des manifestations en Pakistan, en Inde, en Turquie, avec des pancartes qui disaient carrément « Charlie Hebdo paiera le prix fort ».
Après la republication des caricatures.
Oui, il y a même la republication, il y a même une vidéo du premier ministre, du ministre pakistanais par contre des affaires étrangères, qui dit que une condamnation ferme ne suffit pas. Il dit qu'il a fait part de son indignation au gouvernement français, mais qu'une condamnation ferme ne suffit pas. Alors bien sûr, il dit que les responsables de cet acte odieux doivent être traduits en justice, mais que peut comprendre un homme, ce jeune homme là de 18 ans qui entend ça via des vidéos? On sait aujourd'hui tous les chemins de l'embrigadement qui sont très simples, un clic et on peut être petit à petit embrigadé. Donc vous imaginez bien que cet homme, s'il est bien d'origine pakistanaise, parce qu'il me semble que son identité n'a pas encore été vraiment...
Il se dit d'origine pakistanaise.
Voilà, vérifié, peut être impacté directement par ce type de discours. C'est simple de faire le lien, sauf qu'effectivement, ça peut... avoir un effet direct sur un individu qui, avec un hachoir, donc un instrument que tout le monde peut avoir, va faire un attentat terrible et attenter à la vie de Français innocents. Voilà l'état de la menace. Donc,
trompant d'adresse au passage, ce qui est l'ironie dans ce drame.
Ça, Charlie Hebdo a été très bon en disant quel con, on a changé d'adresse. Ouais. C'est vraiment ça. Enfin, franchement,
non,
heureusement qu'ils ont encore de l'humour.
La personnalité de ces auteurs isolés, supposément. Philippe Moreau-Chevrelet.
Oui, c'est du terrorisme low cost, c'est du terrorisme décentralisé, donc ça correspond à tous les codes de la communication d'aujourd'hui. Et c'est terriblement efficace en termes de marketing. Là où il y a eu une gestion que je trouve... Alors, ça pose une question, mais c'est intéressant. Emmanuel Macron ne s'est pas exprimé sur cet attentat. Donc, il y a eu une sorte de polémique autour du fait de savoir si le président devait parler à cette occasion.
Et comment vous réagissez à ça? Puisque l'Élysée a confirmé à l'AFP qu'Emmanuel Macron ne prendrait pas la parole sur ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire?
Il y a eu deux réactions. Il y a eu une première série de réactions qui ont dit « Mais attendez, Hollande, à l'époque, avait reconnu la gravité de ces faits. Oui. Il est important que la société française réagisse. » et marque le coup. Et la deuxième réaction qu'on a envie d'avoir, c'est peut-être qu'on ne va pas donner une audience aussi terrible à n'importe quel type qui vient commettre ce type d'acte, parce que ça revient à en faire un événement national
c'est
à chaque
sûr.
Fois.
Mais Gérald Darmanin se rend sur place accompagné de Jean Castex.
Oui, c'est voilà. Un événement national.
Fait, Darmanin, c'est peut-être un échelon suffisant, Castex aussi, on n'est peut-être pas obligé de remonter à l'Élysée.
D'accord.
Mais c'est un vrai débat. Est-ce qu'il faut à chaque fois en faire un événement au risque de créer des vocations et de servir la stratégie médiatique de Daesh? Ou est-ce qu'il faut banaliser? Mais si on banalise, on va s'habituer, comme le dit Frédéric Dabi. Alors c'est un signe de résilience. C'est aussi un signe, quelque part, de résignation. Mmh. Et ça a un effet émollient sur le long terme, sur
mais
l'opinion.
Mais après, du coup, il y a un précédent. Je vous coupe, Philippe, parce que s'il ne prend pas la parole sur cet attentat-là, pourquoi la prendra-t-il sur un futur potentiel, une future potentielle attaque?
Ça pose aussi la question d'une nouvelle forme de type de communication. Mmh. Alors qu'à chaque fois avant, c'est vrai, le président parlait en cas d'attentat.
Et de la gradation, évidemment. Bah, je voudrais qu'on se souvienne ensemble, le 3 octobre 2019, ce discours d'Emmanuel Macron rendant hommage aux 4 fonctionnaires tué dans cet attentat à la préfecture de police de Paris. Emmanuel Macron qui appelle alors à bâtir la société de vigilance face à l'hydre islamiste. Écoutez Emmanuel Macron.
Opposons à la haine l'intransigeance républicaine, à la terreur l'irréductible esprit français de résistance, à l'obscurantisme l'amour de la raison et son exigence.
On était dans ce discours, Frédéric Dabi, très solennel, mais très lyrique aussi. On ne se place pas dans le même degré
tout à fait. Là,
de discours.
On n'est pas sur une non-réaction dont vous parliez tout à l'heure, Philippe. Et effectivement, c'est un non-événement et c'est une fausse polémique. Maintenant, dans les enquêtes d'opinion, je suis frappé de voir à quel point il y a un sentiment d'inaction du président de la République sur ces questions régaliennes d'une manière générale. On parlait de la délinquance il y a quelques semaines et c'est un des rares sujets sur lesquels les Français... 3 octobre 2019, ça fait un an. Concrètement, quand on interroge les Français sur les actions qui ont été menées, très peu de choses émergent. On a le sentiment, qui est toujours un petit peu compliqué pour un pouvoir exécutif et pour un président qui, sans doute, dans 18 mois, va remettre en jeu son mandat, qu'il a beaucoup parlé et qu'il a très peu agi. On a ces mêmes logiques d'opinion sur le projet de loi sur le séparatisme qui a été, je crois, encore décalé.
Oui, et voilà pourquoi partie de la droite s'engage dans ce gouffre sécuritaire qui n'est pas aujourd'hui pris proprement par les autorités, Philippe Moreau-Chevrolet.
Oui,
il y a un espace qui n'a pas été comblé.
Oui, il y a un espace, d'autant plus que le gouvernement lui-même y va. Donc c'est ce qui est surprenant dans la séquence. Ils sont faibles sur la sécurité, notamment depuis les Gilets jaunes. Mmh. En gros, on a perdu avec ce gouvernement une culture de l'ordre public qu'on avait auparavant. Ce n'est certainement pas la faute que du gouvernement. C'est arrivé sous ce gouvernement. Du coup, comme c'est arrivé, eh bien, il y a une interrogation sur sa capacité donc, à maintenir l'ordre, à assurer la sécurité. Le gouvernement lui-même va jouer sur cette corde pour essayer de devenir plus régalien et compenser le défaut que souligne Frédéric Dabi. Maintenant, ça a le désavantage d'ouvrir une avenue à l'opposition parce qu'effectivement, ils sont prenables sur ce thème-là. On peut les avoir. Donc la droite, est, à juste titre, se dit qu'il y a une opportunité.
Et Marine Le Pen
on assiste
également
à un combat politique.
Et Marine Le Pen également.
Oui, Emmanuel Macron prendra la parole vendredi prochain sur ce fameux discours sur le séparatisme qui va annoncer le projet de loi qui sera présenté. Donc il prendra la parole, mais est-ce qu'il va faire le lien? Moi, à mon avis, c'est casse-gueule, pardon du terme, mais avec l'attentat d'hier, ce serait trop tard. Il fallait prendre la parole tout de suite. Sinon, 7 jours après, c'est trop tard.
Il voulait aussi marquer le coup avec les 1 an de Chirac, et je pense que voilà.
Et le terme séparatisme est un terme qui passe mal parce qu'il est relativement polysémique.
Je vous invite à lire la tribune de Jean-Charles Brizard et Thibault de Montbrial dans le Figaro. Ils l'ont publié la veille de l'attaque au couteau, donc avant-hier, et ils alertent sur le risque d'actions violentes ciblées venant de la mouvance de l'islam radical, renforcée, écrivent-ils, par la remise en liberté progressive de nombreux condamnés pour terrorisme. C'est ça aussi la réalité. Très factuelle, très concrète. Merci Laetitia Krupa, merci Philippe Moreau-Chevrolet, Frédéric Dabi. On se retrouve demain pour ce débat des grandes voix.